Radio Kapi.
Grâce à Hamzati Massanzi à la présentation de votre journal.
À la une, des enfants mineurs, dont des filles, sont libérés des groupes armés dans la province du Tanganyika grâce au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Plus de détails à l'ouverture de ce journal. À quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre d'État en charge de l'éducation martèle sur la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base et appelle tous les inspecteurs au bon sens. Notre invité ce midi est le chef du bureau de l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Le docteur Paul Donsop parle de l'arrêt d'activité sur le site agricole d'Nkwadi dans la province du Kasaï oriental. Bonjour, ce journal part de la province du Tanganyika où 60 enfants mineurs sont retirés des groupes armés par le PDDRCS avec l'appui de ses partenaires. Information livrée ce vendredi à la radio Kapi par le PDDRCS. Cette opération a été menée du 12 au 14 août sur l'axe Kalemi-Bendera dans les territoires de Kalemi. Le point avec Paul Emunanga.
Le PDDRCS Tanganyika précise que sur les 60 enfants mineurs, il y a 40 filles et 20 garçons qui sont retirés des groupes armés des chefs miliciens Toa, dénommés respectivement Sarma, Elia et Béton, dans les localités de Kampunda à environ 35 km de Kalemi et qui sont déjà à 60 km au nord du territoire de Kalemi sur l'axe Bendera. Le programme précise que sur le site Kampunda, par exemple, la mission de vérification qui s'y est rendue a porté sur 24 présumés enfants associés aux forces ou groupes armés enrôlé dans le groupe armé du chef Toa Sarma. Et à l'issue de cette opération, 23 enfants mineurs, dont 13 filles âgées entre 7 et 17 ans, ont été certifiés. Ces enfants sont remis à l'Association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins abandonnés et malnutris pour leur prise en charge avec l'appui de l'UNICEF, précise le PDDRCS. Signalons que dans la partie nord du territoire de Kalemi foisonnent plusieurs groupes armés parmi lesquels les Bilosé Bishambouké. Kalemi, Pone Munanga, Radio Okapi.
Et au Maniema, le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire au sud de sa province, notamment dans le territoire de Kasongo, où des affrontements ont opposé il y a peu deux groupes de miliciens. Une commission a été dépêchée ce samedi à Kasongo pour s'enquérir de la situation. Le gouverneur dit vouloir également ramener la paix dans la communauté musulmane du Maniema. Ali Kiamasa Willy, porte-parole du gouvernement provincial, explique au micro de Florence Kizalunga.
Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, veut mettre fin à la bipolarisation entre les factions qui se trouvent au niveau de la confession religieuse, le musulman. Une commission a été instituée à cet effet pour passer au peigne fin les différends entre cette confession. Étant donné que les Maniema et les berceaux de l'islam, la commission a eu 7 jours pour présenter au Conseil des ministres les résolutions qui seront appliquées. Et enfin, il a été décidé par Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, le Conseil des ministres est attendu, de dépêcher une grande commission au sud de la province, particulièrement dans les territoires de Kasongo, où il y a eu des échauffourées entre les Wazalendo de Mandevu ainsi que les majors Kiwis de l'armée. Cette commission descend ce samedi, composée des membres du gouvernement, par l'entremise du ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions, les honorables députés provinciaux désignés à cet effet, les forces vives, les représentants des communautés de Nonda et des Zimba. Bref, comme Son Excellence Monsieur le Gouverneur a prôné la gouvernance participative, cette mission a été assignée de ramener la paix dans cette grande partie de la province du Maniema.
Nous les disions sommaire. Clôture ce samedi de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2023-2024 ici à Kinshasa. À cette occasion, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui dit avoir pris en compte les recommandations issues de cet atelier à placer cette nouvelle année sous le signe du renforcement des missions de l'inspection scolaire et de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire public. À cet effet, elle recommande l'intégrité et la rigueur dans les chefs des inspecteurs, car toute déviation sera sanctionnée, martèle-t-elle. Blaise Shindani Kambala a pris part à cette cérémonie, suivez son reportage.
À l'issue de cette réunion annuelle d'évaluation, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ont fait plusieurs recommandations pour améliorer la qualité de l'éducation et stimuler les développements socio-économiques, entre autres,
d'honorer ses engagements par rapport à la passation, correction et publication des résultats des évaluations certificatives et prendre en charge correctement les inspecteurs et agents d'appoint en payant toutes les primes leur dévolues et des salaires décents.
Prenant la parole à son tour, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en a profité pour mettre en garde contre tout déviationnisme de la part des inspecteurs. Raissa Malou.
Prenant en compte les recommandations issues de ce forum, je place cette nouvelle année sous le signe de renforcement des missions de l'inspection scolaire et de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire public. À cet effet, je vous rappelle l'importance de l'intégrité et de la rigueur dans l'exécution de vos missions. Toute déviation par rapport à ces principes fondamentaux devra être sanctionnée, car la nation tout entière compte sur vous pour préserver la qualité de l'éducation.
Notez par ailleurs que les inspecteurs ont demandé au gouvernement de confier à l'inspection générale l'impression des bulletins et autres titres scolaires et lui fournir les intrants nécessaires.
Merci beaucoup à vous, Blaise Shindani Kambala. La prise en charge multidisciplinaire des accidents cardiovasculaires est le thème du premier forum national sur les AVC. Ce forum s'est tenu du vendredi à ce samedi à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre est de faire comprendre à la population le danger auquel elle s'expose en négligeant son hygiène sanitaire. Les médecins des différentes spécialités et généralistes ont répondu présents à ces rendez-vous. Reportage d'Étienne Lissumbo.
Tour à tour, les médecins sont passés à la tribune pour exposer sur les dangers de cette maladie chez les bébés et adultes. Docteur Angèle Mbongo, chef des services des radiopédiatriques aux cliniques universitaires de Kinshasa, attire l'attention des femmes enceintes sur le risque de transmettre les facteurs de l'AVC à leur bébé dès l'essai maternel.
Il faut qu'une maman ait un régime équilibré, une alimentation saine. Il faut qu'elle évite de fumer. La fumée, ça veut dire passif ou actif. Même le conjoint doit éviter de fumer pendant la grossesse de sa femme. Et il faut que la femme essentiellement évite la déshydratation. Donc, parce que c'est l'absence, la diminution ou l'arrêt brutal de ce flot sanguin dans le cerveau du fœtus qui entraîne l'AVC en anténatal.
Docteur Jean-Paul Bambalé, médecin directeur adjoint de l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, explique ce qu'il faut faire pour éviter l'AVC.
L'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la sédentarité. Par rapport à ces facteurs-là qu'il faut corriger. Si vous corrigez bien votre hypertension artérielle, vous êtes hypertendu, vous prenez les médicaments contre cette hypertension, vous allez lutter contre l'AVC.
Signalons qu'en marge de ce forum, le service neurovasculaire des cliniques universitaires de Kinshasa a été équipé en matériel moderne.
Politique. L'opposant congolais Martin Fayulu est arrivé vendredi à Chicago aux États-Unis. Selon ses collaborateurs, c'est pour répondre à l'invitation des démocrates et prendre part à la convention du Parti démocrate. C'est un rendez-vous de premier plan sur la scène politique internationale où la candidature de Kamala Harris pour l'élection présidentielle américaine à venir sera officiellement validée demain lundi. Il est invité avec d'autres personnalités politiques africaines comme l'opposant guinéen Selou Dalein Diallo. Martin Fayulu poursuivra sa tournée politique à Washington DC pour plaider la cause du Congo. On écoute Prince Epengue, porte-parole de l'AMOKA, dans cet extrait proposé par Alain Irung Mushinge.
Le président Martin Fayulu sera parmi les invités des grandes marques, des hautes factures, les invités politiques du monde entier qui seront là présents lors de l'investiture de Kamala Harris. Après cette investiture, il va reprendre son bâton de pèlerin dans cette tournée diplomatique et politique où il plaide la cause du Congo, où il est allé dire trop c'est trop. Les regarder condamner ne suffit plus. Il faut aider le Congo de la même manière que vous aidez l'Ukraine, de la même manière que vous aidez l'Israël face à ses envahisseurs. C'est ça le message de Martin Fayulu. Donc après la convention démocrate où il est convié, il va prendre son avion pour Washington DC, la capitale des États-Unis, où là encore, il y a des réunions de très haut niveau qui l'entendent.
Nous sommes au Sud Kivu. C'est ce dimanche que le cardinal Fridolin Ambongo préside les cérémonies de béatification des quatre martyrs. Il s'agit des trois missionnaires xavériens ainsi que du prêtre diocésain d'Ouvira qui furent tous tués le 28 novembre 1964 dans les cités des Baraka et Fizi. Mais qui sont ces martyrs? Quelle histoire autour de leur vie chrétienne? Rachel Kessembango.
Les quatre martyrs qui seront béatifiés par le cardinal Fridolin Ambongo sont Albert Joubert, prêtre de nationalité congolaise, Luigi Carrara, Giovanni Didone et Vittorio Faxin, des missionnaires xavériens de nationalité italienne. Le premier, Albert Joubert, est le 15e prêtre diocésain de l'Est du Congo. En 1962, il devient abbé du nouveau diocèse d'Uvira. Son ministère se concentre dans la pastorale ordinaire, l'enseignement et la direction des écoles. Quant au deuxième, Ludi Carrara, ses 2 années de service au Congo furent consacrées à l'étude de la langue et à ses premières activités pastorales à Fizi et Baraka. Le 3e, Giovanni Didone, est présenté comme un missionnaire qui se laisse complètement dévorer par les pauvres, avec le souci constant d'annoncer la parole de Dieu et de convertir le plus de Congolais possible. Enfin, Vittorio Faxin, sa passion était le travail pastoral. Il consacrait son temps libre à l'encadrement des jeunes d'Action catholique, les chorales et les catéchumènes. Ces béatifications auront lieu plusieurs années après celles de la sœur Marie-Clémentine Anwarit Nengapeta et Isidore Bakan. Les martyrs congolais. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Nous apprenons qu'au Kasai Oriental, quelques actes de sabotage sont déjà enregistrés sur le pont Lubi, dans le territoire de Kabiyakamwanga, une semaine seulement après l'autorisation de passage des véhicules de gros tonnage sur cet ouvrage d'intérêt national. D'après le directeur provincial de l'Office des routes, certains vis et quelques boulons ont été enlevés et emportés jusque-là par des personnes non identement identifiées. Une équipe des ingénieurs de l'Office des routes a été dépêchée sur ce pont ce samedi pour renforcer cette infrastructure routière afin d'éviter le pire. Ingénieur Malachi Kwete, chef d'équipe, fait le constat de ces actes de sabotage au micro des journalistes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC Mbujimayi.
A été inauguré le 10 avec l'autorité provinciale. Avec grande consternation, nous avons constaté qu'il y a certains de nos compatriotes qui se comportent d'une manière honteuse. Nous avons trouvé qu'il y a eu vol de quelques éléments sur les ponts. C'est un acte de sabotage réprimable. C'est pour ça que nous sommes venus avec une autre équipe pour pouvoir renforcer, donc souder tous les éléments qui sont sur les ponts, notamment les vis, les boulons, afin de les empêcher de continuer à déranger les ponts. Le constat qui est fait, ils ont volé les boulons en quelque sorte avec ses accessoires, car apparemment je pense que quelqu'un est venu, le voleur a pris fuite. Mais nous avons trouvé l'élément est détaché. Nous sommes venus avec notre boulot, nous avons remplacé et nous avons choisi de renforcer carrément, de souder tous les éléments. C'est un grand travail, il faut souder les ponts entiers. Il faut souder partout, c'est des travaux qui vont prendre 4 jours pour pouvoir les sécuriser. Ça va coûter parce qu'il faut du carburant, il faut payer la main d'œuvre, il faut acheter les accessoires. C'est un travail qui va coûter. Pour nos compatriotes, l'air de ces ponts appartient à la République. C'est pour nous tous, c'est un ouvrage d'une importance capitale. Nous devons avoir l'habitude de protéger nos biens. Alors un tel ouvrage nous sert à tous. Il faut les protéger, il ne faut pas venir les saboter.
Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. À Ituri, lancement hier des travaux de réhabilitation du tronçon Arukenge-Zibaze, long d'environ 100 km à la frontière avec le Soudan du Sud. Selon la Fédération des entreprises du Congo de ce territoire, cette route est d'importance capitale pour le commerce transfrontalier et entre les provinces, notamment l'Ituri et le Haut-Uele. Son président précise que ce projet financé par le gouvernement provincial va permettre d'améliorer les conditions de vie de la population de cette entité qui avait de la peine à écouler les produits des champs à cause des délabrements de la route. Plus de détails avec Isaac Raymond.
Les trafics entre les centres commerciaux d'Aru, Ariwara, Ingokolo et d'autres agglomérations de la province voisine du Haut-Uele, dont Durba, Wacha, Faraj, Dungu et Iziro, tournaient au ralenti à cause de l'état de délabrement des routes, ce qui ne permettait pas aux véhicules d'accéder à certaines localités. Certains habitants utilisaient des motos pour l'évacuation de leurs produits des champs. De nombreux opérateurs économiques qui empruntaient la route Aru-Kengezi-Baz pour l'importation de leurs marchandises en provenance du Soudan du Sud ont également suspendu leurs activités. Le lancement des travaux de réhabilitation de ces tronçons est accueillis avec satisfaction par toutes les couches de la population. Pour certains habitants, cela va permettre d'évacuer des vivres, notamment les maïs, les soja, les haricots, les manioc, vers d'autres marchés en Ituri et dans les Haut-Uele. Même pour les commerçants qui achètent des marchandises en Ouganda pour les vendre dans d'autres centres commerciaux à travers le pays. Cette route facilite aussi le commerce transfrontalier entre la RDC et le Soudan du Sud, où des petits commerçants congolais vont vendre notamment des motos. Certains opérateurs économiques d'Aru importer des carburants en passant par le Soudan du Sud. Tout cela contribue à améliorer les vécu quotidiens de la population, précise la FEC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les premiers chiffres de l'emploi depuis les élections générales de mai 2024 en Afrique du Sud ont été publiés et ils sont mauvais. Le taux de chômage, déjà le plus élevé au monde, a continué de grimper pour atteindre 33,5% de la population active au deuxième trimestre alors qu'une légère baisse était attendue.
L'invité.
Docteur Paul Dantsop est notre invité. Il nous parle justement de l'arrêt des activités sur le site agricole des Nkwadi. Il s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, docteur Paul
Dantsop. Quelle est la mission de
l'Institut international pour l'agriculture tropicale, l'ITIA, ici au Kassai Oriental?
Ok, merci madame. Donc, l'ITIA a pour quartier général à Ibadan, au Nigeria. Nous avons environ 5 domaines où nous opérons. Le premier domaine, c'est la biotechnologie et l'alimentation et l'amélioration génétique. Nous avons la gestion des ressources naturelles, les sciences sociales et agribusiness, ensuite la protection des plantes et enfin la nutrition et technologie alimentaire. Et nous sommes ici depuis 1970. Et au Kassai, nous pensons que tous les problèmes qui intéresse AIT se retrouve ici. Donc c'est une zone qui a des problèmes de sol, de semences, c'est-à-dire c'est une zone où l'agriculture n'est pas vue forcément comme un business. Il y a des problèmes de maladies qui affectent les plantes.
L'Institut international pour l'agriculture tropicale travaille en collaboration avec l'entreprise Bio Agro Business, plus précisément sur le site d'Inkwadi. Quel est l'état de lieu de ce site?
Donc, depuis la session du chef de l'État au pouvoir, il a initié ce qu'on a appelé l'agenda de transformation de l'agriculture qui devrait assurer la revanche du sol sur le sous-sol. Et dans le cadre de cet agenda, AIT a été invité avec Ali. Ali, c'est l'autre institution internationale pour appuyer le ministère de l'Agriculture dans la mise en œuvre de cet agenda de transformation. Et les sites pilotes sur lesquels on devait commencer l'agenda de transformation, c'était les sites du PVA, c'est-à-dire Mongata, Kundi, Kwadi, Buzizi, Sakadi et Lubondai. Et nous avons choisi le site de Mongata, le site de Kwadi et le site de Buzizi. Les objectifs que nous avions dans ces sites, c'était de 1. Améliorer la productivité. C'était d'amener d'autres cultures qui n'étaient pas ici. C'était de maintenir le système semencier. C'était de faire fonctionner les usines de maïs et les usines de manioc. Et c'était aussi d'apporter un volet aquaculture. Donc maintenant, si on parle de l'état des lieux de ces différentes activités que j'ai mentionnées, en ce qui concerne le système semencier, nous avons produit en collaboration avec l'INERA environ, pour l'année passée, on avait 3,5 tonnes qu'on a remis au gouvernement pour la distribution aux ménages. Nous avions fait environ 50 hectares de boutures de manioc et ces 50 hectares devaient aider à planter 500 hectares en milieu paysan que nous avons rétrocédé au gouvernement. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore pris ces variétés. Nous avions aussi le soja que nous avons introduit ici et l'année passée, on avait déjà produit près de 2 tonnes de semences qu'on a distribué aux différents ménages au niveau de Nkwadi et Lumami. Là, à Nkwadi, nous avons mis 2 serres pour faire la multiplication rapide de manioc. En termes de productivité, nous avions 2 aspects. L'aspect sur site de Nkwadi et l'aspect en milieu paysan. Sur Nkwadi, nous avons pu augmenter la productivité jusqu'à 2,5 tonnes par hectare. Donc on est passé de moins d'une tonne qu'on avait trouvée à 2,5 tonnes par. Et en milieu paysan, nous avions trouvé 400 kilos à 600 de maïs que les paysans faisaient. Mais aujourd'hui, on est en moyenne à 1,5 tonnes de maïs en milieu paysan. La saison qui vient de s'achever, nous avons produit environ 180 tonnes de maïs en Kwadi. Si on additionne tout ça, on serait à presque 2500 tonnes qu'on aura déjà produit ici en Kwadi. Et en termes des usines, nous avons pu monter les usines de maïs et l'année passée, en masse, on a produit la farine en Kwadi. Et l'usine de manioc aussi est presque achevée. Donc, il faut juste un peu de fonds pour finaliser les derniers travaux sur ces sites et mettre par exemple les unités de stockage et de nettoyage pour que les usines soient 100% opérationnelles.
Le gouverneur de province est passé par le site d'Inkwadi et l'impression que cela montrait est que les équipements sont abandonnés, il y avait juste une sentinelle. Comment expliquez-vous cette situation?
Effectivement, je suis d'accord avec l'observation. Je dirais pas forcément abandon, mais par rapport à l'arrêt temporaire des activités dans le site. La mission d'audit du gouvernement est passée en novembre passé. Et ils avaient demandé au gouvernement de donner la suite des fonds que nous devrions utiliser pour continuer les activités. Et depuis lors, nous n'avons pas reçu ces montants. Et il n'y avait plus de salaire à donner au staff.
Docteur Paul Dantsop, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité est interrogé par Esther Ndalafina. Et c'est la fin de ce Radio Journal, coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rungmuchins. Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengonsoil était à la mise en onde, présentation de grâce à Mzati Masanzi. Merci et excellent dimanche à toutes et à tous.